Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une section de texte satirée des médias suivants. La presse et le devoir. Au programme, sous le charme des plantes rares. Fred Pellerin, conteur de son temps. Et Forteresse, Canada. Bonne écoute.
Sous le charme des plantes rares. Un texte d'Emmanuel Mosdaïan-Verchave, paru le 8 avril 2023 dans La Presse. Le confinement a incité nombre d'entre nous à ajouter un peu de verdure dans nos intérieurs. L'engouement pour les plantes rares en particulier a été tel que certains en ont fait une collectionnite aiguë et bénéfique pour la santé. Témoignages et conseils de Guillaume Mousseau, un spécialiste passionné, et de Nadia Bérubé, qui a acquis quelque 300 végétaux depuis 3 ans. Les plantes rares font partie de la vie de Guillaume Mousseau depuis qu'il est tout petit. Mes parents ont fondé le Cactus Fleuri à Sainte-Marie-Madeleine en 1976 et je suis né en 1990. J'ai donc baigné dans des centres de cactus et de plantes grasses pendant toute ma jeunesse, raconte-t-il, en ajoutant que ses parents ont longtemps été les seuls producteurs de ce type de végétaux au Québec. Ses connaissances et sa passion se sont développées en famille et s'il n'a pas pris la relève de l'entreprise, bien qu'il continue de s'y impliquer, son amour pour ces espèces ne l'a jamais quitté, puisqu'il en a collectionné énormément. J'ai une vie très occupée entre le travail et 3 enfants en bas âge, mais j'essaie de leur transmettre ce lien avec les plantes, confie cet entrepreneur en marketing qui a veillé à mettre ses végétaux hors de portée de ses chérubins. C'est bon pour le moral. Choyez ces plantes, leur parlez. C'est bon pour elles autant que pour nous, puisqu'on se sent gratifié d'en avoir pris soin quand elles s'épanouissent. Et puis, c'est l'occasion de se forger un réseau en développant une réelle passion, comme l'a vécu Nadia Bérubé. J'ai commencé à m'intéresser aux plantes rares au début de la COVID-19. C'est devenu un beau passe-temps pendant le confinement. En étant célibataire, c'était difficile de ne pouvoir rencontrer personne, se souvient cette conseillère financière. Des groupes se sont créés sur les réseaux sociaux, ce qui permettait d'avoir des conseils, de faire des échanges, des trouvailles et de partager les petites merveilles qu'on avait dénichées, se remémore-t-elle. Aujourd'hui, elle remarque qu'il existe une multitude de collectionneurs qui sont toujours en quête de nouveautés, alors que les perles rares de 2021 sont désormais plus accessibles dans les centres de jardin, car la tendance s'est popularisée. Il reste que cette activité lui a été très bénéfique et qu'elle lui a donné un superbe jardin intérieur qu'elle adore chouchouter. Cette passion se développe au fur et à mesure qu'on en apprend plus sur ce fascinant univers. Guillaume Mousseau, comme ses parents, ne cesse jamais de chercher des nouveautés à offrir à la clientèle. Le jardin Daniel A. Séguin à Saint-Hyacinthe est d'ailleurs une grande source d'inspiration pour ce dernier. C'est un endroit magnifique où l'on peut découvrir de nouvelles plantes rares dans un contexte plus naturel, remarque-t-il. Le secret d'une plante florissante. Guillaume Mousseau constate que beaucoup de personnes craignent de ne pas savoir comment entretenir leurs végétaux et disent qu'elles n'ont pas le pouce vert. L'important, c'est de recréer l'environnement naturel des plantes pour qu'elles se portent bien, ce à quoi les gens ne pensent pas nécessairement, dit Guillaume Mousseau. L'exemple des cactées placées dans la salle de bain lumineuse est récurrent. Même si cette pièce est claire, ce qui est nécessaire pour un cactus Elle est également humide, ce qui ne correspond pas au milieu naturel très sec de cette plante désertique. Il faut donc vérifier quel est le milieu de vie d'origine du végétal et tenter de le recréer chez soi autant que possible. C'est sûr qu'on ne peut pas humidifier notre maison à 60 % ou 80 % pour satisfaire les besoins d'une plante tropicale, mais elle peut s'adapter si elle est vaporisée d'eau chaque semaine. C'est important de demander des conseils horticoles à des spécialistes pour savoir où l'installer, quels sont ses besoins en eau, puis quand et comment la tailler, croit Guillaume Mousseau, qui confie avoir un coup de cœur particulier pour la lanterne chinoise, une plante tropicale dont la feuille est semblable à celle de nos érables et qui fait de très belles fleurs. Pour des plantes en santé, trucs et astuces. Installez votre plante à un emplacement répondant à ses besoins naturels, ensoleillement plus ou moins fort, air humide ou air sec. Laissez bien sécher la terre entre chaque arrosage, puis bien humecter. Si la terre est très sèche, n'hésitez pas à faire tremper la plante quelques minutes. En période de croissance, du printemps à l'automne, vous pouvez fertiliser les cactus et plantes grasses en privilégiant un engrais d'algues et de crabes qui va moins affecter les racines qu'un engrais minéral en cas d'extrême sécheresse de vos plantes. C'était, sous le charme des plantes rares, un texte d'Emmanuel Mosaïan Verschaif, paru le 8 avril 2023 dans La Presse.
Fred Bellerin, conteur de son temps, un texte de Yannick Marcoux, paru le 25 février 2023 dans Le Devoir. Le conteur de Saint-Élide Caxton reprend la scène avec La descente aux affaires, spectacle qui fait une belle place à son personnage de Toussaint Brodeur. Fred Bellerin remplit les salles des plus grands théâtres québécois avec ses histoires et sa musique, seul sur ces immenses scènes, sans rien d'autre que sa guitare et un pied de micro. Avant, il avait aussi une chaise, mais depuis la pandémie, elle a pris sa retraite de la tournée. Elle prenait de la place dans le char, nous lance-t-il, le regard rieur. Le Devoir l'a rencontrée alors qu'il s'apprêtait à relancer sa tournée québécoise de « La descente aux affaires », spectacle de conte dans lequel il nous invite sous l'épée de Damoclès du temps. Voilà 20 ans qu'il attise les braises de ses contes. Bien au chaud, dans une pizzeria de la petite patrie, il n'en revient pas. Tantôt, on est passé devant la Maison de la culture où mon agente m'a vu en spectacle pour la première fois. En 2001, ou quelque chose comme ça. J'étais à l'université, en même temps, je faisais ça pour le fun. Je ne pensais jamais que ça me mènerait là où je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, la voix pleine et le regard vif, il est comblé de félicité. D'avoir échappé à ses parcours artistiques éphémères, d'avoir pu vivre des projets enivrants et d'être encore là, nouveau spectacle en bouche, avec un public qui répond présent. À un moment donné, je me dis, ils vont s'écœurer de Saint-Élide Caxton. Au contraire, on se réjouit de le retrouver, de retour au pays, après une virée en France, avec sa nouvelle fournée de contes, dans laquelle le désormais bien connu Toussaint Brodeur, tenancier du magasin général de Saint-Élie, est le protagoniste de La descente aux affaires. Célébrer le Toussaint. Fred Pellerin repousse toute relation ésotérique avec ses personnages, mais il admet que ceux-ci lui donnent parfois l'impression de s'imposer à lui. Je me rends compte de ça à chaque fois. C'est comme si le personnage principal d'un nouveau spectacle avait commencé à m'intéresser au spectacle précédent. Signe que les charmes de Toussaint opéraient sur le compteur, celui-ci était au cœur de son premier album jeunesse, La course de petits bateaux, paru en novembre 2021. Fred Pellerin souligne aussi l'apport d'Émile Proux-Cloutier, interprète de Toussaint dans L'arracheuse de temps, long métrage aussi sorti en novembre 2021, qui a propulsé le personnage en lui injectant encore plus de relief et de caractère. Mais si Toussaint est au cœur de La descente aux affaires, c'est aussi le fruit d'une décision concertée. J'ai une obsession grandissante pour le temps. Et je trouvais qu'avec Toussaint, il y avait un beau choc à créer entre le temps et son rapport à l'argent. Comme d'habitude, Fred Pellerin s'inspire des figures de Saint-Élie de Caxton pour alimenter ses contes. Mais sous les traits du commerçant se glisse aussi le souvenir de son père. Habile conteur, C-O-M-P-T-E-U-R, et infatigable conteur, C-O-N-T-E-U-R, son père prenait plaisir à manier les chiffres pour les subjuguer à sa création. Mon père n'était pas assoiffé d'argent, mais il ressemble à Toussaint par sa façon de jouer avec le système. Son jeu, c'était de démancher les chiffres. Dans un monde capitaliste où la colonne des chiffres pèse lourd dans la balance de nos préoccupations, Fred Pellerin prend bien soin de mettre de la chair et un cœur à son Toussaint, nous invitant notamment autour du four à pain où Brodeur a rencontré l'amour. Il assure d'ailleurs qu'il est d'abord un joueur de tour qui s'amuse à prendre les chiffres en otage. Toussaint n'est pas méchant. C'est un ratoureux. Il aime l'argent, mais il aime surtout le jeu que lui permet l'argent. On pense parfois qu'il est coincé, mais Toussaint s'en sort tout le temps, sauf devant l'éternité. Un processus créatif fil de feriste. À baigner dans l'univers de ses contes, célébrant ses tournures de langage, ses épatants revirements narratifs ou ses envolées nourries d'exagération qui font gonfler notre rire jusqu'à nous prendre les côtes, on croirait que Fred Pellerin travaille ses textes au quart de tour. Il n'en est rien. « Moi, je travaille en improvisation, reconnaît-il, soulevant la feuille posée devant nous, enchaînant « Mon spectacle tient sur ta feuille, là, pas plus volumineux que ton plan d'entrevue. » Le conteur est-il en train d'exagérer? Il assure que non. La première fois, faut que je fasse 1h15. Je veux que les gens s'amusent. Je rentre sur scène avec une pile d'assiettes sur la tête. J'avance tranquillement. Mais après une trentaine de représentations, je ne suis plus en train de chercher les poutres. J'ai trouvé un équilibre et je sais où je peux sauter et où il vaut mieux ne pas aller. À l'exploration des débuts, parsemée de l'ivresse des découvertes, succède alors un autre plaisir, plus libre. Quand je connais les forces du show, je peux m'amuser à ouvrir les petites portes, les fioritures de langue, les délires ou me laisser aller. Je m'amuse avec ça et le show s'étire. Et à un moment donné, il faut que je fasse des coupures. Ça fait ça chaque fois. Je suis parti à 1h15, là, je suis à 1h40. Gardien du feu. Tandis que Fred Pellerin se donne la liberté d'ajouter ou de retrancher du temps à ses spectacles, il prend de plus en plus conscience que cette liberté est circonscrite. Le temps fuit. Et s'il connaît la mort suffisamment pour l'avoir mise en scène, il sait qu'on ne peut la contrôler au point d'en tirer les ficelles. Depuis quelques années, il admet avoir recentré ses énergies et balisé ses priorités. Le plaisir et la folie de la création m'ont pris longtemps. Il y a eu une époque où je faisais 125 shows par année. Mais là, je fais plus ça. J'en fais 75. Ça m'a pris du temps d'arriver à cet équilibre-là. » Il cite en exemple le temps des sucres qu'il avait coutume de faire avec son père. Quand il est mort, en 2007, je m'étais dit que je sauterais pas une saison. Mais ma productrice m'a appelé pour un show à Paris. 4 jours. Bon, j'ai dit oui. Mais les sucres, si tu sautes 4 jours dans le mois que ça dure, ça marche pas. L'année d'après, ça a été un documentaire sur Gilles Vigneault, Le goût d'un pays. Puis finalement, ça a pris 11 ans. Mais là, ça fait 5 ans, et maintenant, le mois des sucres, c'est sacré. Il en parle d'ailleurs avec passion, les mots sucrés et généreux comme un bon sirop, admettant que le rythme des sucres le rappelle à une humilité qui fait du bien. Tu te mets à la merci de la chose, tu te poses avec elle. C'est méditatif. Loin de vivre au ralenti, au contraire animé par une urgence d'habiter l'existence, il fait fi du temps et s'inscrit dans un quotidien de feu furieux où il apprend à vivre dans une forêt qu'il habite depuis quelques années. Pour moi qui suis plus gentleman que bûcheron, c'est vraiment intéressant de côtoyer la nature de cette façon-là. J'ai un projet de truffière, de cabane à sucre, je bûche du bois, j'ai mes enfants, je rêve d'un voyage. Sur scène, comme dans le canevas ouvert de son existence, il s'amuse à ouvrir des portes, s'emballant de ce qu'elles dissimulent. Peut-être lui faudra-t-il couper bientôt pour arrimer ses désirs au calendrier. Mais en attendant, la vie est un sacré beau spectacle. La descente aux affaires de Fred Pellerin au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts du 1er au 5 mars et en tournée au Québec dès le 25 avril. C'était Fred Pellerin, conteur de son temps, un texte de Yannick Marcoux paru le 25 février 2023 dans Le Devoir.
Forteresse Canada, un texte de Laura Julie Perrault, paru le 25 mars 2023 dans La Presse. Le chemin Roxham n'a jamais été ouvert. Il faut se rendre sur place pour comprendre. L'endroit où des milliers de migrants ont traversé la frontière depuis 2016 était un croisement entre un champ de patates, un no man's land et une arrière-cour d'écurie. Pour beaucoup, ce petit chemin de terre était la route de l'espoir, souvent après un long et âpre voyage à travers l'Asie, la Méditerranée, les Amériques. Ceux qui l'empruntaient des États-Unis vers le Canada savaient que la distance à parcourir à pied était courte, qu'ils allaient être appréhendés par la gendarmerie royale du Canada, mais qu'ils auraient rapidement le droit de demander l'asile. Ce qui rendait le petit chemin de Montérégie attrayant aux yeux de beaucoup, c'était justement sa prévisibilité. Une rareté sur les routes tortueuses de la migration internationale. Pas de crocodiles ou de gangs armés. Pas d'embarcation de fortune qui prend l'eau. Juste un chemin de terre et un policier au bout, plus amical que répressif. J'écris mes premiers paragraphes au passé, parce que dans la nuit de vendredi à samedi, à 00h01, le chemin Roxham, qui n'a jamais vraiment été ouvert, s'est transformé en mur. Depuis 00h01, toute personne qui n'est pas canadienne ou américaine et qui voudrait franchir la frontière entre deux postes officiels, comme au chemin Roxham, se heurtera à ce mur, sans savoir ce qui l'attend après. À Ottawa, vendredi, Joe Biden et Justin Trudeau se sont félicités de travailler ensemble pour assurer la sécurité des frontières et renforcer la migration régulière. C'est en ces termes qu'ils ont annoncé les modifications à l'entente américano-canadienne sur les tiers pays sûrs qui, depuis 2004, oblige les demandeurs d'asile à demander la protection dans le premier des deux pays qu'ils foulent. L'entente, qui ne s'appliquait qu'aux postes frontières officielles, englobe maintenant les deux frontières en entier. Les deux dirigeants y voient une manière de colmater une brèche. François Legault, lui, parle d'une victoire pour le Québec qui, jusqu'à tout récemment, recevait la grande majorité des demandeurs d'asile arrivés de manière irrégulière. Vous m'excuserez si, pour ma part, j'y vois plutôt une série d'aveuglements volontaires. Ni M. Biden, ni M. Trudeau n'ont rappelé que l'entente sur les tiers pays sûrs était devant la Cour suprême du Canada, qui devra trancher si elle respecte la Charte des droits et libertés du pays. Notre argument, c'est que les États-Unis ne sont pas un pays sûr où renvoyer les demandeurs d'asile, et c'est sur ce point qu'un juge de première instance nous a donné raison, notamment à cause des conditions de détention imposées aux migrants, rappelle France-Isabelle Langlois, directrice générale d'Amnesty International pour le Canada francophone. Et la situation n'est pas en train de s'arranger au sud de la frontière, où Joe Biden vient de donner un tour de vis pour restreindre le droit de demander l'asile. Selon les nouvelles règles, ceux qui n'auront pas demandé l'asile dans un pays de transit, comme le Mexique, avant d'arriver à la frontière américaine, seront refoulés. Ceux qui tentent d'entrer dans le pays de manière irrégulière, plutôt que d'attendre pendant des mois un rendez-vous à la frontière, seront aussi exclus. La mesure est tellement dure qu'elle lui a valu le surnom d'asylum ban, ou embargo sur l'asile, dans les milieux progressistes. Ce surnom fait écho au « Muslim ban » de Donald Trump, une mesure que le président républicain avait adoptée pour freiner la venue aux États-Unis de ressortissants de plusieurs pays musulmans. Dans de telles circonstances, qu'arrivera-t-il aux migrants qui seront refoulés vers les États-Unis selon les nouvelles modalités de l'entente canado-américaine? Pourront-ils demander l'asile? J'ai passé la journée de vendredi à poser la question à des experts de l'immigration au Canada et aux États-Unis, et personne n'avait la réponse. Autre angle mort. L'effet à long terme des nouvelles règles qui prévoient que les migrants peuvent être refoulés dans les 14 jours qui suivent leur entrée au pays de manière irrégulière. Les passeurs doivent se lécher les babines. Combien offriront aux migrants de les aider à passer la frontière de manière clandestine? Il y a du choix. La frontière canado-américaine fait 9000 kilomètres de long pour ensuite les cacher jusqu'à ce qu'ils puissent se présenter aux autorités. Et qui pourra déterminer si quelqu'un est sur le territoire depuis plus de 14 jours? On ne reçoit pas un tampon dans son passeport quand on arrive dans un champ en pleine nuit. Ça sent déjà le profit pour les exploiteurs, le danger pour les migrants et les maux de tête pour les policiers. Et que dire d'un autre oubli sous-jacent? Celui de nos obligations internationales. Depuis la Seconde Guerre mondiale, on n'a jamais vu autant d'êtres humains se déplacer pour se mettre à l'abri de la guerre, de la persécution et de cataclysmes divers. On parle de 90 millions de personnes en exil forcé. La grande majorité trouve refuge dans un pays voisin, mais certains atteignent l'Occident. L'an dernier, ils ont été près de 90 000 à frapper aux portes du Canada, dont 40 000 au chemin Roxham. Pas exactement la mer à boire dans un pays qui accepte, bon an mal an, de 300 000 à 500 000 immigrants qualifiés. Et rappelons-nous que nous avons signé des conventions internationales qui nous empêchent de les refouler, de les retourner à leur sort. Longtemps, le Canada a été un modèle dans ce domaine. Le meilleur par défaut, comme je l'écrivais dans un récent dossier. Dans ce système d'immigration et de droit d'asile, il y a beaucoup de progrès à faire pour le rendre meilleur, plus efficace, pas pour le transformer en forteresse. C'était « Forteresse Canada », un texte de Laura Julie Perrault, paru le 25 mars 2023 dans La Presse.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoir.com. Cette émission est rendue possible grâce à Gilbert Lepage, Lynn Lamarche et Claire Dorion à la lecture, Evelyne Séverin et Diane Métayer à la recherche, Nicolas Wartman à la présentation et au montage.